La parole. Et la parole de Dieu a été lue et proclamée par les apôtres depuis le principe même de cette parole dans la Torah jusqu'au fond de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. La parole de Dieu est proclamée. C'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, dès lors qu'on entend, qu'on voit la bouche qui parle, et qu'on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu est un glaive de feu. Il transperce le lien entre le corps vivant et l'âme. Et la soif d'éternité qui palpite au fond de chacun d'entre nous. Et l'esprit en nous qui fait que nous sommes des hommes est une soif d'éternité. Et notre âme est liée au corps spirituel, se laisse transpercer par cette soif. Le glaive de la parole de Dieu vient nourrir cette soif d'éternité. Et cette transverbération touche aussi bien cette soif d'éternité qui est l'esprit en nous, l'esprit humain, l'âme qui l'écoute, la reçoit et la fait rayonner dans toutes les profondeurs de Dieu, parce que c'est de Dieu qu'elle émane et c'est de Dieu qu'elle se proclame, et c'est jusqu'à Dieu qu'elle glorifie, et la chair, le glaive, la parole de Dieu est une nourriture, mais parce qu'elle est un glaive à double tranchant. C'est une nourriture. Et c'est la bouche de Jésus qui proclame. Et c'est aujourd'hui qu'elle se réalise. La parole que vous venez d'entendre, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle se réalise. Et celui qui veut connaître Jésus, il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il voie la bouche qui s'ouvre pour faire entendre sa voix. C'est par les oreilles que l'Écriture peut se faire entendre. Tandis qu'on regarde celui dans les entrailles duquel éternel le Verbe de Dieu se proclame. Cette Écriture que l'on entend, cette parole, celui qui veut connaître, c'est-à-dire naître de manière totale, d'une manière communautaire, dans une communion universelle, une communion parfaite. Dans l'acte pur de cette communion, s'il veut avoir cette naissance de ce qui s'exprime comme une parole flamboyante, transperçant, à double tranchant, pour celui qui la profère et celui en qui elle est proférée, eh bien, celui-là, celui qui veut connaître, posséder, pénétrer, recevoir l'héritage, le trésor, le don de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Jésus, il doit entendre la parole de Dieu, il doit se nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture qui vient d'en haut. Parce qu'elle se réalise à l'intérieur de Dieu. Et elle s'accomplit à l'intérieur de Dieu. Et elle nous a assimilé, nous assume pour nous porter, nous placer, nous établir à l'intérieur de Dieu. C'est une nourriture pour la vie éternelle. Une Eucharistie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. C'est le Verbe, pas la parole de Dieu. Cette naissance éternelle du Verbe de Dieu dans la transverbération qui se proclame dans, à travers, et se reçoit à travers les oreilles de la foi et de l'espérance. L'espérance fait que on est comme profondément transplanté à l'intérieur de Dieu. La foi fait que on est attentif, qu'on reçoit la lumière et que cette lumière peut nous assumer. C'est les deux oreilles qui permettent d'entendre la parole de Dieu. On se nourrit de la parole de Dieu. Et le pain de la vie en qui je demeure et qui demeure en moi, qui m'assimile, et je deviens ce qu'il est, c'est la parole de Dieu. Avant qu'il y ait l'Eucharistie, il y a la parole de Dieu. Dans l'Eucharistie, il y a le Verbe de Dieu. Et surtout, il y a cette transverbération, ce transpercement, quelque chose qui, où Dieu, tout en nous créant, vient transpercer notre soif d'éternité, c'est-à-dire notre esprit humain. Saint Jérôme dit que l'ignorance de la parole de Dieu, c'est l'ignorance du Christ. Prenez, mangez-en tous. La parole de Dieu se savoure. Et quand on lit les épîtres aujourd'hui, il y a les oreilles quand même pour entendre. Mais du coup, les yeux pour voir les lèvres de celui qui profère. Et si les oreilles n'entendent pas, les yeux ne voient pas, les lèvres et ne voient pas qui. Et du coup, et si tu ne vois pas, mais comment est-ce que tu vas sentir, comment est-ce que tu vas savourer, comment est-ce que tu vas goûter? Tout fait partie, tout le corps, tous les membres du Christ sont dans la parole de Dieu. Tout est nourriture, il y a une Eucharistie, il y a une messe, il y a une offrande, il y a une transverbération, il y a un transpercement dans la lecture de la parole de Dieu. Alors on vient de vivre une semaine très importante. Il y a eu un événement, c'est aujourd'hui. Ils ont été surpris à Nazareth de voir Jésus arriver. Refermer le livre, c'est un rouleau, il a remis au servant. Ils avaient tous les yeux fixés sur lui. Fixés sur lui, c'est aujourd'hui. Et il dit, c'est aujourd'hui que cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. La présence réelle dans la lecture de la parole de Dieu est immédiate. Elle est transsubstantielle, elle est transactuelle. Elle touche la fin. Elle touche la réalité vivante de notre assomption. Elle est le fruit de notre assomption en Dieu. Elle est le fruit de ce qu'il y a au-delà de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui s'est... Et ça, c'est dans la synagogue de l'Église, de la Jérusalem, du Nazareth glorieux, du monde nouveau. Et ce qui s'est passé donc cette semaine, bon, tout le monde ne le sait pas, mais c'est pour ça que je vais le dire, mais le pape, le Saint-Père, a proclamé, c'est peut-être la dernière fois, que le pouvoir des clés du successeur de Pierre proclame un docteur de l'Église. Docteur, c'est-à-dire que c'est un apôtre. Un docteur, c'est un apôtre, c'est un enseignant, et c'est un docteur. Dans le corps du Christ, c'est les plus belles, les plus grandes fonctions, les premières fonctions qui font la clé de voûte de l'édifice, c'est les apôtres, d'abord. Et les enseignants, ceux qui proclament ce que ça veut dire. Et les docteurs, parce que ça guérit en nous tout ce qui nous emprisonne dans les choses de la terre et ne libère pas tout en nous pour que nous puissions être saisis par Dieu dans la grâce de sa gloire éternelle. Eh bien, un docteur de l'Église, un apôtre, qui enseigne et qui guérit. Et le pape a proclamé Saint Jérôme, donc docteur de l'Église, docteur de l'unité, docteur de l'un, de l'unité divine, de l'indivisibilité de Dieu dans l'Orient, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et en pleine semaine de l'unité du Christ, ce qui veut dire que ce que nous a annoncé sainte Irénée, prima de Gaulle, principe du véritable Israël de Dieu de la fin du monde, il en est le prima, sainte Irénée, et il est la succession apostolique joannique, et donc il ouvre les portes. Ce qu'il faut, ce que je voudrais, c'est de, ce qu'il faut que les, ce que faudrait dire, disons, c'est que quand le pape dans les trois blancheurs, hein, dans la grâce de la maternité divine et eucharistique de Marie, les trois, ces 300 en place proclament et ouvrent quelque part un accomplissement de son infaillibilité, les trois blancheurs sont présentes, hein, et l'infaillibilité, bon, par exemple, quand je proclame un dogme, quand je proclame que saint Hildegarde est docteur de l'Église, bon, nous le savons maintenant quand même depuis le temps. Ça ne veut pas dire que, à son époque, elle n'était pas, ce qu'elle disait n'était pas recevable. Non, ça veut dire. Et saint Jérôme, donc, à partir de hier, à partir de la fête de celui qui a donné son sang pour que la France devienne le ciment du sang du Christ dans le monde entier, dans le règne du Sacré-Cœur. Le jour de la mort du martyr, de celui qui a mérité l'apparition à la fin des temps, c'est-à-dire au cinquième saut de l'Apocalypse, l'apparition de celui qui doit régner et gouverner sur toutes les nations avec un sceptre de fer, avec la spiritualité intérieure de la parole de Dieu dans la croix glorieuse. Tout ça, c'est lié à la France, à Saint-Jean. C'est joannique, c'est la France. C'est le véritable Israël de Dieu. Les portes s'ouvrent. C'est probablement la dernière fois. Bon, eh bien, ça ne veut pas dire que saint Jean, on n'a pas à nous nourrir de la parole de Dieu dans l'apôtre par excellence, l'enseignant par excellence. L'Apocalypse est par excellence celui qui fait entendre l'Apocalypse et la fait voir et lui donne son. Et il donne son effet éternel et aussi incarné dans le temps glorieux. pour son accomplissement, Saint Jean. Et Saint Jérôme est proclamé docteur parce que il est johannique. Et aussi parce que il a en lui-même reçu une grâce, voilà ce que proclame le pape finalement, ce qu'on a toujours su. Mais il a une grâce pour l'accomplissement, pour la proclamation de l'accomplissement. C'est une trompette de l'Apocalypse. C'est une trompette de l'alpha à l'oméga, de la parole de Dieu dont nous nous nourrissons. Il l'a toujours été, mais quand on ouvre la porte de l'infaillibilité pour en faire, pour dire qu'il est docteur de l'Église, sur l'unité, sur l'unité de tous les apôtres, et de tous les successeurs des apôtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit brûle le corps mystique de l'Église dans la pierre angulaire apostolique de l'Église, une sainte et infaillible, unie au Saint-Père, pour dire que c'est à partir d'aujourd'hui, donc à partir du 21, aujourd'hui c'était le 21, donc à partir du 21, donc du Saint-Agnès, mémoire du roi, agneau de Dieu, du roi d'amour, du Sacré-Cœur de Jésus. On a été des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de prêtres à célébrer la messe le 21 pour la mort, pour le martyr, pas pour son martyr extérieur, ça on s'en fiche, mais son martyr, c'est le martyr qui mérite l'apparition. Du grand saint de la terre, celui qui doit, du fils de David, comme dit le psaume d'il y a 3 jours, qui est le plus grand des rois de la terre, parce que pour avoir la royauté, il faut avoir l'amour à l'état pur, l'humilité à l'état pur, le service à l'état pur. Il faut être Jésus roi d'Israël, Jésus de Nazareth, roi d'Israël, à l'état pur. Bon, et bien c'est à partir de cette semaine que les temps sont accomplis pour que la parole de Dieu, son explication, c'est-à-dire la manière de voir ce qu'elle signifie, et sa saveur va se communiquer du ciel à la terre, à l'Église de la terre, ce que Saint Jérôme a été, non pas de son temps, mais pour le temps d'aujourd'hui, depuis 3 jours. C'est le 3e jour, 21, 22, 23. Allez, on va dire c'est le 3e jour. Trouve sa fécondité efficace, vivante, incarnée, lumineuse, réelle, dans les membres vivants, du corps mystique vivant, de Jésus vivant, parce qu'il y a un seul corps. Et Saint Jérôme, en particulier, on le sait, il s'est battu contre les hérésies, mais c'est pas à cause de ça. Si, c'est aussi pour tout ce qui... Mais il a une vision, il est une trompette de l'Apocalypse. Normal, puisque c'est un disciple, il est dans la succession apostolique de Johannique, hein, c'est pas... Jean a eu un disciple qui s'appelait Polycarpe, Ignace d'Antioche, et Irénée. Donc Irénée est devenu la première bouche, hein, à la troisième génération. Mais on dit qu'il était, bien sûr que Saint Jérôme était déjà né quand Saint Jean était encore là et qu'il a proclamé l'Apocalypse. Dans tout ce que dit Jérôme, Saint-Irénée, pardon, est transmis. est transmis à partir de du nouvel Israël de Dieu. Et en particulier, bien sûr, ces commentaires sur l'Apocalypse. C'est pas des commentaires, parce qu'un commentaire, c'est toujours écrit, tandis que là, c'est une parole différente. Elle doit être entendue, elle doit être vue. Voilà, et donc, en particulier, il y a beaucoup de choses, il faut que tout le monde entende tout ça, toute la terre l'entende, hein, puisque le décret est irréformable, et je veux dire, c'est l'heure, et c'est à partir de maintenant, et il faut partir immédiatement dans la saveur de toutes ces choses pour qu'elles se réalisent immédiatement. C'est aujourd'hui que ces choses se réalisent et qu'elles s'accomplissent. L'accomplissement est immédiat. C'est à partir de maintenant le règne de l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse est ouvert. Le règne de l'ouverture des temps est ouvert. Le règne de ce qu'on appelle les mille ans, c'est-à-dire le règne de la croix glorieuse, l'Immaculée Conception accomplie dans tous les membres vivants de Jésus vivant, est ouvert de manière efficace, réelle, vivante. L'autorité de Dieu dans les mille ans de l'Apocalypse est ouverte et fait partie de notre foi et de notre invincibilité infaillible. Sans être vu par quiconque et ne connaît pas la parole de Dieu ou la refuse ou ne l'entend pas. Dès qu'on entend quelque chose dans la foi qui relève de l'infaillibilité, ça nous fait échapper au regard du démon, au regard de ceux qui sont avec le démon et au regard de ceux qui sont dans l'esprit de ce monde. La Jérusalem nouvelle. Et les membres de la Jérusalem nouvelle, du corps vivant de Jésus vivant et entier, sont invisibles aux yeux de ceux qui ne désirent pas être transpercés, être choisis, être incorporés à Jésus vivant. Et la parole de Dieu, du coup, devient une nourriture. Puisque c'est son accomplissement qui est proclamé par les trois blanchards, la matinée divine et Marie eucharistique, la proclamation de la parole de Dieu. De sorte que, voilà, supposé, dans l'Apocalypse par exemple, vous lirez bien, même si vous ne le lisez pas, on vous dira, on vous proclamera, on vous dira ce que saint Irénée a proclamé, comme, et qu'il proclame désormais aujourd'hui comme docteur de l'Église, de manière pénétrante, hein, incarnée, et dans son accomplissement, c'est-à-dire dans une fécondité, une efficacité immédiate, mais qui va jusqu'au bout d'elle-même, hein, et de son objet. Hein. On va dire, hein, tout ce qui est spécifique, hein, à ce docteur de l'Église, les mille ans de l'Apocalypse, l'ouverture des temps, l'Antichrist. Bien sûr qu'à un moment, dans le règne de l'Antichrist, ils ne vont pas renoncer, malgré l'ouverture du cinquième sceau. Ils ne vont pas renoncer, aucun d'entre eux va renoncer. Ils ne vont pas renoncer à l'œuvre de leurs mains, à la transformation de la médecine de guérison en œuvre satanique immédiate, avec des moyens sataniques, explicitement sataniques et diaboliques. Ils ne vont pas renoncer à ce vol des pauvres, à cette espèce de destruction de tous les biens de la terre pour qu'aucun pauvre ne puisse s'en nourrir. Ils ne vont pas renoncer à ce régime des banques de mammon. Ils ne vont pas renoncer au crime. Ils ne vont pas renoncer à l'avortement. Pas seulement à l'avortement, de l'avortement, mais pas l'avortement que nous connaissons, mais ils ne vont pas renoncer à la mort des enfants, à la mort des justes, la mort de tout ce qui peut, de tout ce qui pourrait risquer d'être encore dans l'innocence. Ils ne vont pas renoncer non plus, hein, à la pornographie. cartographie, c'est-à-dire à l'inversion totale de la signification sponsale du corps. Et, et au sacrifice correspondant dans le sang, dans le meurtre, dans le cri d'ovation de maman, Belzébuth, de Lucifer, et de celui à qui on offre, dans une cruauté substantielle, inouïe, les enfants et l'innocence des hommes. Ils ne vont pas le renoncer, mais ils vont au contraire essayer de se souder entre eux pour ne pas entendre la parole de Dieu et la trompette de l'Apocalypse. Et alors on sait très bien que tout ça va se cristalliser dans un royaume temporel. Hein. L'esprit de ce monde ne laissera pas la place à l'apparition d'un épi de blé. Une petite goutte d'Eucharistie. Mais la parole de Dieu, oui. Entendre la parole de Dieu. Le Verbe de Dieu, à travers la transverbération. Dans le royaume qu'ils ne peuvent pas, même pas concevoir dans son existence, dans sa manière de se proclamer du royaume de la croix glorieuse. Grâce aux enfants qui sont sous l'autel, qui passent devant nous pour nous le faire entendre et proclamer. Hein? La parole de Dieu, ben, elle va nous nourrir. C'est la messe. L'Eucharistie. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas une tragédie que de vivre du fruit et des sacrements de l'Eucharistie, du fruit des trois blancheurs. Hein? Dans la mendication de la parole de Dieu est une véritable nourriture. C'est la nourriture véritable. C'est l'offrande véritable, c'est la transverbération véritable, c'est le fruit de l'Eucharistie véritable. C'est Saint Jean qui dit ça. La parole de Dieu est la nourriture véritable. Je suis le pain de la vie. Ma chair est une nourriture véritable. Et le soleil brûlant de la volonté de l'époux, du Père, que lorsqu'il nous crie, il veut qu'on vive de cette volonté glorieuse, éternelle, amoureuse de Dieu, qui donne sa propre vie. C'est notre nourriture, la volonté éternelle et glorieuse de Dieu, qui nourrit la Jérusalem dernière. Bon, ben, l'heure est arrivée, parce que jusqu'à maintenant, pour votre culture générale, bon, on disait, oui, attention, l'Apocalypse, Saint-Augustin en particulier, bon, Saint-Augustin, il a parlé pour l'Église jusqu'à l'ouverture du cinquième psaume de l'Apocalypse et la transformation de l'accomplissement de l'Église dans la Jérusalem qu'elle est, dans sa nature, dans son fond. Dans sa soif d'existence, dans son accomplissement en elle-même, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, donc c'est un grand moment. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le livre d'Esdras, la parole de Dieu, elle est reproclamée sur le hauteur de la croix. Esdras est sur une estrade de bois. Et tous se prosternent, et ça faisait 500 ans qu'on n'avait pas entendu la parole de Dieu à Jérusalem. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi la parole de Dieu est proclamée dans l'Épître aux Corinthiens, la parole de Dieu est proclamée dans l'Évangile de Saint-Luc. La parole de Dieu est une nourriture. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah oui, parce que quelqu'un m'a dit ces jours-ci, c'est horrible, nous ne pourrons plus aller à la mer, nous n'aurons plus l'Eucharistie. Maintenant, toutes ces grâces pour celui qui croit. Donc, la grâce qui vient devant nous est évidemment au centuple plus puissante, plus réconfortante, plus pacifiante que la grâce d'hier. Parce qu'il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce. Dans le rassasiement, dans le parfum, dans les délices. Voilà. Et c'est pour ça que le Saint-Père avait dit, je me rappelle, il y a 19 mois, quand il n'y a plus eu de messe pour Pâques dans les églises de la terre, même à Rome. Et ça s'est reproduit une deuxième fois, et là, sans doute, peut-être, ça se fera-t-il la troisième fois, je ne sais pas. Mais il a dit, mais vous avez la parole de Dieu. C'est parce que Dieu veut qu'on fasse de la parole de Dieu une offrande, une eucharistie, une nourriture. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez la messe. Alors, l'Église, eh bien, elle dit quoi? Elle dit, vous savez, quand vous avez la parole de Dieu, vous avez l'absolution. Ah, je savais pas. Ah oui, bien sûr, vous avez l'absolution. Vous avez la parole de Dieu, vous prenez la parole de Dieu pendant une demi-heure. Lectio divina, la parole de Dieu, vous la... il faut l'entendre, attention. Hein. Il faut que les lèvres, hein, pour qu'on puisse voir les lèvres, pour qu'on puisse entendre. Ce qui... Et il faut qu'elle soit cursive. Il faut que ce soit le temps de plus d'une demi-heure. Il suffit dans le temps... dans le temps, un silence d'environ une demi-heure. Voilà, sans doute. Et pour nourrir le corps mystique du Christ tout entier, et le faire entendre, et que ça s'accomplisse. Et bien l'Église, elle dit, depuis le pape Paul VI, et Enchiridion et Jacerum, elle dit, celui qui fait la Lectio Divina pendant 30 minutes, eh bien, il reçoit le la présence réelle de l'absolution, sacrement de pénitence. Et même, il lui fait produire son fruit, puisque tu vis à ce moment-là, tu nourris le corps mystique du Christ tout entier de l'indulgence plénière, c'est-à-dire de l'absolution de toutes les conséquences, de toutes les fautes que tu as pu faire. Alors que l'absolution du prêtre, que dans un sacrement qui s'arrête au sacrement, qui ne donne pas son fruit, eh ben, te pardonne tes péchés et enlève la tâche qui est dans l'âme, hein. Mais pas les conséquences, pas les réparations, pas la peine, la satisfaction de la peine. L'absolution, la miséricorde devient substantielle et dans son acte pur avec la lecture divina pendant une demi-heure. Donc il y a aussi, les sept sacrements sont présents, si je puis dire, puisque ce que le prêtre n'a pas pouvoir de faire quand il donne l'absolution, toi tu as le pouvoir de le faire dans l'indulgence plénière. C'est pas du protestantisme, mais c'est l'Église, dans la maternité divine des sacrements, avec le pouvoir des clés du Saint-Père, qui le déclare comme étant une vérité à partir de laquelle on peut être nourri. Et quand tu te nourris, c'est une nourriture de Dieu. C'est Dieu donné en nourriture. Eh bien, quand tu te nourris d'une salade, quand tu te nourris d'un œuf, eh bien, la salade, les cellules végétatives, les cellules animales, du jaune d'œuf par exemple, deviennent des cellules humaines par la digestion. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est une soif d'éternité de Dieu, spirituellement incarné. Et donc, les réalités vivantes inférieures sont transformées en nos cellules humaines, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit des sacrements, quand il s'agit de c'est Dieu quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit du corps mystique accompli de Dieu, non seulement subsistant dans le Verbe de Dieu et l'épousé, mais Dieu lui-même dans son engendrement éternel, et bien forcément, à ce moment-là, cette nourriture assimile mes cellules humaines dans le corps spirituel. Et je suis appelé à ce moment-là. C'est une assimilation, c'est Dieu qui m'assimile. C'est le corps mystique, pardon, de Dieu qui m'assimile. C'est la Jérusalem, c'est l'Église des Trois Blancheurs dans son accomplissement qui m'assimile. Et je suis, à ce moment-là, assimilé comme membre vivant du corps mystique vivant de Jésus vivant, bien sûr, mais de l'épousé, qui fait les délices de ce qui rassasie le Père avant la création du monde. C'est une transformation. Et donc le baptême est présent dans la mendication de la parole de Dieu, dans l'accomplissement. Bien sûr, puisque le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est une simulation de la mort et de la résurrection de Christ qui m'assimile et m'emporte en elle et me transforme. Donc l'union transformante qui est le fruit du baptême est présente. Il y a une unification des sacrements qui se fait dans leurs fruits. Voilà la proclamation du Saint-Père pour l'unité. Et du coup, bien sûr, le principe de l'animation immédiate va pouvoir être savouré, ouais, son odeur va pouvoir être resplendir sur la terre de l'Église. Les temps sont accomplis et la parole que vous entendez, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Il y aurait beaucoup à dire, mais déjà avec ça, j'allais dire, on a tout ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'absolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de baptême. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus l'envoi du Saint-Esprit dans ses sept dons pour la confirmation de ceux qui invisiblement dans leur humilité substantielle reçoivent les dons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de sponsalité sacramentelle. Au contraire. Mais ça veut dire que chacun de ceux qui seront sur la terre dans la Jérusalem nouvelle vont communier, recueillir et être transformés par les sacrements qui ont existé, qui existent et qui existeront encore, bien sûr, même si ils disparaissent aux yeux du fort externe de quiconque sur la terre. Hein. Par exemple, le sacrement de mariage, il sera là, forcément. Le sacrement de prêtre, il sera là. Peut-être on ne le verra plus, mais il sera là. C'est pas tous les prêtres qui vont s'endormir quand même. Il sera là. Et tous les sacrements qui ont existé, qui existent et qui existeront encore, sont unis avec leurs fruits. Et donc on peut, comme vase communicant, et comme communiquer les fruits des sacrements. Voilà, Saint Irénée. Docteur de l'Église. C'est vrai, l'Église va connaître les 1000 ans d'Apocalypse. C'était pas la peine de se nourrir de cette vérité jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'était saint Augustin qui dit, écoutez, pour l'instant, c'est saint Augustin. Le pape dit, maintenant, c'est maintenant. C'est vrai, l'Église va éclore dans le Nazareth glorieux, le Noël glorieux. de la Jérusalem véritable, corporellement, spirituellement, temporellement, avec la même, et avec une union totale, hein, avec l'intériorité vivante, l'Immaculée Conception. Et qu'il entend 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, c'est toutes les forces contraires n'atteindront absolument pas cet élan de la Jérusalem, puisqu'il on est l'ennemi principal de l'Antichrist, mais il ne nous verra pas. Voilà. Ben, gloire à Dieu. Ben, application pratique. Vite, achetons une Bible. C'est mieux d'acheter une... C'est bien d'acheter une... Il faut avoir une Bible. Faire attention. Faire attention. Faire attention qu'un jour, on va dire quoi ? On sera peut-être capable de se nourrir de la parole de Dieu. Notre mémoire libre et incarnée va déployer toutes ses soifs, toutes ses capacités. On pourra être la Bible de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? La connaître par cœur, comme on dit. C'est bien de connaître un évangile par cœur, de connaître la parole de Dieu par cœur. Parce que le fort externe de la Sainte Écriture pourra disparaître. Il faut se nourrir de la parole de Dieu, la connaître par cœur, comme des prêtres connaissent la messe par cœur. Comme c'est pas difficile, parce que la mémoire, hein, les profondeurs de la mémoire, de manière si profonde, si puissante, si scandaleusement féconde, efficace, opérante, à pouvoir se nourrir de la parole de Dieu. Et nous allons devenir la Bible de la Jérusalem Noël. La parole de Dieu, l'Apocalypse, nous sommes les enfants, nous sommes l'Évangile. Notre corps spirituel va devenir l'inscription de l'Évangile. L'inscription de la Bible, l'inscription de l'Apocalypse. Parce qu'on va s'en nourrir et on va en vivre, sans qu'il soit besoin d'un support matériel extérieur. Il y aura toujours un support matériel extérieur quelque part, vous inquiétez pas. Enfoncé dans des lieux inatteignables, mais... Donc, application pratique, je dirais, eh ben, vivre la messe tous les jours, dans la lecture divine de la Bible. Hein? Pour aller en dehors de tout ce qui fait en nous entrave, et qui nous empêche de rentrer dans la Jérusalem Nouvelle, où il n'y aura plus aucune, mais plus la moindre entrave, plus la moindre conséquence du péché en nous. En raison d'une absolution réellement donnée par Jésus, pour qu'il y ait une cause méritoire de l'Église, pour que le feu du Saint-Esprit puisse, au terme des derniers sauts de l'Apocalypse, brûler, faire et anéantir et faire disparaître réellement tout le mal de la terre. C'est notre mission.